A passenger has died. He was murdered.
Miss Marple!
Monsieur Poirot!
Un thé avec Agatha Christie.
I am Agatha Christie.
Sonia Fairchak.
Elle a écrit Le crime de l'Orient Express et le meurtre de Roger Ackroyd. Mort sur le Nil, et ils étaient 10. Des chefs-d'œuvre de la littérature policière, des chefs-d'œuvre tout court. Elle, c'est Agatha Christie, la romancière la plus lue au monde. Aujourd'hui encore, ses livres continuent de se vendre comme des petits scones, à raison de 4 millions par an. Et si vous allez à Londres, on vous conseillera sûrement d'aller voir La Souricière, The Mousetrap, un monument du théâtre signé Christie, qui fête 75 ans de représentation. Alors que dans quelques jours, nous célébrerons les 50 ans de sa disparition, je vous invite à mener l'enquête, à l'heure du thé, en explorant sa vie, son œuvre et les raisons de son incroyable succès. Bonjour, bienvenue dans un thé avec Agatha Christie.
France Inter, un thé avec Agatha Christie. Épisode 5, Marple et Poirot, l'âge de vérité.
On ne présente plus Hercule Poirot et Miss Marple. Agatha Christie a su créer non pas un, mais deux personnages cultes, deux détectives parfaits. Des archétypes pourtant complètement différents. Mais que continue-t-on de leur trouver? C'est ce que nous allons élucider dans un premier temps, avant d'inviter l'écrivaine et critique de mode Sophie Fontanelle à rejoindre notre enquête. Elle a son opinion bien à elle sur le charme d'Hercule Poirot.
Madame, la veille de la mort de Richard, pourquoi s'est-il querellé avec Charles?
Oh, je suis d'une maladresse. Non, je vous en prie. Je n'en ai aucune idée. Ils étaient très attachés l'un à l'autre et très rarement en désaccord.
Madame, dites-moi, s'il vous plaît, où êtes-vous allée le lendemain des funérailles, le jour du meurtre de Cora Gallacher?
Je fais partie des suspects dans votre enquête.
Madame, je ne cherche qu'à découvrir la vérité, et je crois savoir que c'est aussi votre souhait.
Je suis allée disperser les cendres de Richard. Il y a un endroit dans la lande qu'il aimait beaucoup.
Quelqu'un vous a-t-il vu le faire?
Non. C'est très isolé comme endroit.
Madame, j'ai invité la famille à me rejoindre ici, à Enderby.
Allez-vous tendre un piège à quelqu'un?
Non. Je n'en sais pas encore assez pour le faire. Mais je m'y connais un peu en psychologie, madame. Et lorsque plusieurs personnes sont ensemble, elles discutent. Et la vérité, tôt ou tard, finit par éclater.
Vous l'avez peut-être reconnu. Hercule Poirot, ou plutôt le merveilleux David Suchet, dans son interprétation du détective le plus connu du monde. Poirot débarque dans la vie et dans l'œuvre d'Agatha Christie dès son premier roman. La jeune écrivaine, encore très influencée par Sherlock Holmes, cherche à créer un tandem de détectives, à la Sherlock et Watson. Mais elle voudrait surtout que son détective soit un personnage auquel personne n'a encore pensé. Elle imagine d'abord un écolier. Non, trop compliqué à faire. Elle hésite. Un scientifique? Mais elle ne sait rien du monde des sciences. Elle renonce. Et puis, la voilà qui pense aux nombreux réfugiés belges qui fuient leur pays occupé par les Allemands et qui arrivent dans son village, à Torquay. Et pourquoi pas un détective belge?
Il y en avait de toutes sortes de ces réfugiés. Alors pourquoi pas un officier de police à la retraite? Pas trop jeune. Quelle erreur je commettais là. Bref, je me décidais pour un détective belge. Je le laissais petit à petit s'installer dans le rôle. Il aurait été inspecteur, afin de posséder de solides connaissances en matière criminelle. Il serait méticuleux, très ordonné, me dis-je, tandis que je faisais moi-même du rangement dans ma chambre en désordre. Il serait très intelligent. Il ferait travailler ses petites cellules grises. C'était là une bonne phrase à retenir. Il aurait un nom qui sonne bien, dans le genre de ceux de Sherlock Holmes et de ses proches. Comment s'appelait-il déjà le frère de Sherlock ? Mycroft. Pourquoi ne pas appeler mon petit homme
Hercule.
Puisqu'il devait être petit, Hercule serait pour lui un bon prénom. Quant à Poirot, je ne sais pas comment je l'ai trouvé. Dans ma tête, dans un journal, au cours d'une lecture. Hercule, écrit à l'anglaise, n'allait pas avec Poirot. Ce serait donc Hercule. Quoi qu'il en soit, Hercule Poirot sonnait bien. Et j'étais débarrassée d'un gros souci.
C'est ainsi qu'Hercule Poirot naît dans la tête d'Agatha Christie et débarque dans la mystérieuse affaire de Styles. En 1920, il fait son entrée en littérature. Pour fêter la signature du contrat, Agatha et son mari vont danser. Agatha adore danser. Le couple se rend au Hammersmith Palais. À Londres, c'est une institution. Après coup, la romancière réalisera qu'il y avait un troisième invité avec eux ce soir-là. Hercule Poirot, son héros belge qui déjà lui collait à la peau. Elle va se le coltiner toute sa vie. Hercule devient vite plus réel que bien des êtres en chair et en os. Ça s'est toujours passé comme ça. Pour Agatha, les personnages sont réels. Toute petite déjà, elle arpentait le jardin d'Ashfield en parlant à sa bande d'amis imaginaires, qu'elle appelait les chatons. Devenue romancière, c'est un des rares conseils littéraires qu'elle s'autorise.
Vous ne pouvez rien faire avant d'avoir réfléchi à vos personnages et d'avoir senti qu'ils devenaient réels pour vous. Pas forcément pour n'importe qui, mais pour vous. Vous devez pouvoir aller vous promener avec eux dans le jardin.
Hercule Poirot devient si réel que très vite, il n'est plus du goût de sa créatrice. Il faut dire qu'Agatha ne s'est pas facilité la tâche. A priori, elle n'a pas choisi le type le plus sympathique qui soit. Et le capitaine Hastings, qui accompagne le détective dans ses aventures, est une sorte de benêt, un cœur d'artichaut pas beaucoup plus séduisant. Le lien entre les deux ? Une indéfectible amitié. Et voici comment Arthur Hastings raconte son ami Hercule Poirot dans leur deuxième aventure, Le Crime du Golfe, un roman paru en 1923.
Un bibelot posé de travers, le moindre grain de poussière, le plus léger désordre dans ses vêtements sont, pour le cher homme, une véritable torture. L'ordre et la méthode sont ses dieux. Il affecte un certain dédain pour les preuves tangibles. Il prétend qu'en elles-mêmes, elles ne suffisent jamais aux détectives pour résoudre un problème. Puis, il tapote, non sans complaisance, son crâne ovoïde et énonce, d'un air de profonde satisfaction et avec un accent effroyable qui ne saurait être transcrit dans un ouvrage qui se respecte, le véritable travail s'accomplit à l'intérieur. Les petites cellules grises, n'oubliez jamais, les petites cellules grises, mon bon ami.
On ne les oublie pas. Hercule Poirot est l'archétype du détective en fauteuil. Il pense pour agir. Il n'est pas comme Sherlock Holmes. Les indices matériels ne l'intéressent pas. Il préfère observer et surtout écouter les gens. Bien sûr, tous les deux cherchent le détail révélateur. Mais là où Holmes fait parler le mégot de cigarette ou l'empreinte de pas, Poirot le surpasse en faisant parler un détail psychologique, abstrait, apparemment insignifiant. Un tic facial ou un mensonge ridicule au sujet d'un rosier, une valise mal préparée peuvent révéler un meurtre. À côté de ça, Hercule est assez fat, psychorigide, obsédé par ses moustaches. Petit et rond, l'homme n'est clairement pas un Apollon. Mais il reste extrêmement soucieux de son élégance. Trop peut-être. Poirot est un personnage complexe. L'animal est difficile à cerner. Agatha n'a d'ailleurs jamais autorisé la moindre représentation de son détective sur aucun de ses livres. Aucun dessin. Rien. Chaque lecteur doit pouvoir imaginer son propre Hercule Poirot. Ce ne sera pas si facile quand David Suchet se glissera dans le costume du détective. Je vais y venir. Avec le temps, Agatha supporte de moins en moins sa créature, et elle ne s'en cache pas. Elle le ridiculise, comme dans cet extrait des Vacances d'Hercule Poirot.
Ah ! Il me fait tordre, celui-là, avec sa moustache. Il doit être coiffeur, non ? Ou quelque chose dans ce goût-là ?
Non, c'est un détective privé.
Vous voulez dire qu'il est ici sous un déguisement ?
Non, non, c'est vraiment son allure naturelle. C'est Hercule Poirot. Vous en avez sûrement entendu parler.
J'avais pas bien saisi son nom. Oui, évidemment, j'en ai entendu parler. Mais j'aurais juré qu'il était mort. Mon Dieu, il devrait être mort depuis le temps.
La mort de Poirot, justement, parlons-en. Et d'avance, je vous présente mes excuses pour ce divulgachage. Et oui, Hercule Poirot meurt. Et c'est l'histoire de son dernier roman. Curtain, attitré Agatha. En français, Rideau. Poirot quitte la scène. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, Agatha et Max Mallowan vivent à Londres. Le second mari d'Agatha est employé par le ministère de l'Air. La romancière, elle, travaille à l'hôpital de University College, où elle retrouve sa casquette d'infirmière bénévole. En 1940, Sheffield Terrace, la rue où habite le couple, est bombardée. Trois maisons sont soufflées et le sous-sol de leur propre immeuble est ravagé, ainsi que le toit et le dernier étage. Miraculeusement, leur appartement n'est pas touché. En ce jour de guerre, la romancière ressent qu'elle peut, comme tout un chacun, disparaître à tout moment. Pour mettre sa fille Rosalind et son mari à l'abri du besoin, à défaut de pouvoir les mettre à l'abri tout court, elle écrit deux romans. Deux livres destinés à être publiés au cas où elle disparaîtrait. La dernière aventure d'Hercule Poirot, titrée Poirot quitte la scène. Et la dernière aventure de Marple, titrée La dernière énigme. Agatha place les deux manuscrits dans un coffre, à la banque. Au passage, elle souscrit deux bonnes assurances contre tout risque de destruction. Puis elle fait officiellement la donation des deux ouvrages à Rosalind et à Max.
Ça vous remontera le moral, leur expliquai-je, quand vous reviendrez de l'enterrement ou de la messe du souvenir, de songer que vous avez l'un et l'autre un livre qui vous appartient. Ils affirmèrent préférer m'avoir moi, j'espère bien, et nous partîmes d'un grand éclat de rire. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont toujours tant de mal à parler de ce qui a trait à la mort. Ce cher Edmund Cork, mon agent littéraire, blêmissait chaque fois que je soulevais la question « Imaginons que je meure ».
Pendant plus de 30 ans, les manuscrits restent cachés. En 1975, sentant que la fin est proche, Agatha fait publier « Poirot quitte la scène ». Cette fameuse toute dernière aventure. Et le 6 août 1975, le détective fait la une du New York Times. Double consécration, il a droit à une nécrologie d'une page entière. Du jamais lu. Hercule Poirot est à ce jour encore le seul personnage de fiction à avoir bénéficié d'un tel hommage. Agatha ne survivra pas à la mort de Poirot. Elle lui succède le 12 janvier 1976. La même année, on publie son roman « La dernière énigme » de Miss Marple. Mais Jane, elle, ne meurt pas.
Quelle importance, nous ne nous reverrons jamais.
Dansez-vous encore à Java dans les dancing. Fumez-vous la marijuana, Monsieur Catherine. Vous êtes très bien là, Monsieur Catherine.
Quelle importance. Quelle importance. importance. Nous ne nous reverrons jamais.
C'est Philippe Catherine dans Parlez-vous anglais, Monsieur Catherine. Et vous, Monsieur Poirot ?
France Inter. Sonia Fairchak. Un thé avec Agatha Christie.
Vous êtes bien sur France Inter dans Un thé avec Agatha Christie. Aujourd'hui, épisode 5. Marple et Poirot, l'âge de vérité. Chose extraordinaire. Agatha Christie aura réussi à créer deux personnages cultes. Hercule Poirot reste le plus connu, c'est sûr. Mais sa grande rivale Miss Marple est elle aussi une célébrité appréciée dans le monde entier. Jane et Hercule ne se sont jamais rencontrés dans la fiction. Agatha ne le souhaitait pas. Ses lecteurs le lui ont beaucoup demandé, mais la romancière était persuadée que ni Marple ni Poirot n'aimeraient ça.
Le parfait égocentrique n'apprécierait pas qu'une vieille fille vienne lui apprendre son métier. Détective professionnel, il ne serait pas du tout à sa place dans le monde de Miss Marple.
Dans la réalité, en fait, leurs destins sont liés. Jane voit le jour un peu à cause d'Hercule. Explication. En 1928, le dramaturge Michael Morton adapte au théâtre le roman Le meurtre de Roger Ackroyd. Mais dans la pièce qu'il a rebaptisée Alibi, Morton non seulement rajeunit Poirot d'une vingtaine d'années, mais il lui change son nom. Il le baptise Beau. Au passage, Poirot devient un bourreau des cœurs, sous les traits du grand acteur Charles Laughton. Agatha, déjà très attachée à son personnage, dans tous les sens du terme, est furieuse de la transformation. Elle la vit comme une trahison. Et surtout, elle est triste. Car dans le roman, le fameux docteur Shepard a une sœur, Caroline Shepard, une célibataire qui voit tout. Dans la pièce de Morton, Caroline est jouée par une jolie actrice, toute jeune, afin que Poirot, alias Beau, n'ait Dieu que pour elle. Agatha est désolée pour sa Caroline.
I think it's possible that Miss Marple followed on from the pleasure I've taken in portraying Dr. Shepherd's sister in The Murder of Roger Ackroyd. She had been my favorite character in the book, an acidulated spinster full of curiosity, knowing everything, hearing everything, the complete detective service in the home.
Nous venons d'entendre Agatha Christie elle-même évoquer la création de Jane Marple, un personnage qui vient prolonger celui de Caroline Shepard. Je traduis.
Vieille fille caustique, pleine de curiosité, sachant tout, entendant tout, la parfaite détective à domicile.
La romancière a tant de peine à voir disparaître sa Caroline dans la pièce de Morton qu'elle décide, plus ou moins consciemment, de donner une voix aux vieilles filles. Un périodique lui commande une série de 6 nouvelles. C'est l'occasion de s'y mettre. Et puis un roman suit en 1930, l'affaire Protero. Le premier à mettre en scène Jane Marple.
Miss Marple se glissa si rapidement dans ma vie que je m'aperçus à peine de son arrivée. Elle était le genre de vieille créature que j'aurais bien vue parmi les amis de grand-mère à Ealing, et dont j'ai rencontré tant de spécimens dans les villages de ma jeunesse.
Miss Marple n'a cependant en aucun cas été un portrait de ma grand-mère. Elle s'est toujours montrée la reine des faiseuses d'embarras, ce que mamie n'a jamais été. Son seul point commun avec elle, cependant, c'est que bien que plutôt gaie de caractère, mamie s'attendait toujours au pire avec les gens et les choses. Et que, avec une sûreté de jugement parfois effrayante, elle avait la plupart du temps raison.
Ce qui caractérise Hercule Poirot et Jane Marple, c'est qu'ils sont vieux. Dès le départ, aux grandes dames de leur créatrice, qui se trouvent coincées quand très vite, ces deux lascars canoniques deviennent des stars. Agatha n'a pas d'autre choix que de les faire vivre et vieillir roman après roman. Quand Hercule Poirot quitte enfin la scène, il était temps, si vous voulez bien me passer la formule. Si on tient compte du fait qu'il est déjà retraité de la police belge dans sa première aventure en 1920, il doit avoir dépassé les 120 ans pour sa dernière enquête en 1975. En 1926, dans le meurtre de Roger Ackroyd déjà, Hercule reconnaissait avoir vieilli. Et il prévenait, ce serait probablement sa dernière affaire. Mensonge, 50 ans plus tard, il est toujours à pied d'œuvre. Et rien ne change, orgueilleux, prétentieux, sentencieux. Quant à Miss Marple, toujours enroulée de son châle rose, elle se montre de plus en plus lente et embrouillée. Avec les années, elle paraît encore plus inoffensive qu'Hercule. C'est une vieille fille, selon l'horrible expression, et très ordinaire. Ça, c'est elle-même qui le dit. Mais on ne la lui fait pas à Jane. Question âge, Miss Marple n'est pas beaucoup plus jeune que Poirot. Mais elle est clairement d'une autre époque.
Crois-tu, Jane, que beaucoup de gens devineraient que nous sommes du même âge, toi et moi?
Ruth von Riddock regardait son amie avec une certaine malice. Miss Marple se montra sincère et rassurante.
Je n'ai pas cette illusion. Moi, vois-tu, je crois que je parais au moins aussi vieille que je le suis.
Avec des cheveux tout blancs, un visage très doux couvert de rides, des joues roses, des yeux candides couleur de pervenche, Miss Marple était une délicieuse vieille dame. Personne, jamais personne, n'aurait pensé à parler de Mrs. Van Rindock comme d'une délicieuse vieille dame.
C'est vrai, ma pauvre Jane. Moi aussi, d'ailleurs, mais pas de la même façon. En parlant de moi, les gens disent « c'est épatant ce qu'elle garde sa ligne, cette vieille bique ». Ils savent fort bien que je suis une vieille bique. Et grand Dieu, je ne sais que trop, moi aussi.
Agatha reste avant tout joyeuse et lucide. Un heureux mélange, assez rare dans la vie, et qui lui a sûrement permis de déployer cet ovni d'héroïne littéraire qu'est Miss Marple. Une célibataire, âgée, conservatrice, pudique, ni sportive ni instruite, qui a pour passion le tricot, le jardinage et les commérages, bien sûr. Mais attention, depuis une dizaine d'années, Jane s'impose comme un objet d'étude pour le monde académique anglo-saxon. La vieille Marple est devenue une héroïne queer. Bon, c'est vrai, dans les romans, on en est un peu loin. Agatha s'amuse avec le côté à côté de la plaque de ces deux vieux limiers. Les autres personnages pensent pouvoir les abuser. Hercule Poirot, en premier lieu, parce qu'il n'est pas anglais. Et là, la romancière ne loupe pas ses compatriotes.
Poirot pénétra crânement dans la pièce défendue par la vieille dame. Elle avait les cheveux gris et de la moustache. Courageusement, Poirot approcha un fauteuil de la cheminée.
Cette pièce est réservée aux pensionnaires de l'hôtel.
Je le sais. Je suis pensionnaire de cet hôtel.
Vous êtes étranger?
Oui.
À mon avis, vous devriez tous repartir.
Ah? Et pour aller où?
Retournez à l'endroit d'où vous venez.
Poirot, sans élever la voix, fit observer que ce ne serait pas toujours facile.
Cet extrait du roman Le flux et le reflux donne raison à l'écrivain anglais John Lanchester, qui explique à quel point Poirot est un personnage subversif pour son époque. Agatha est souvent critiquée, avec raison, pour ses propos réactionnaires, racistes, antisémites, misogynes. Elle s'en est toujours défendue en affirmant qu'elle ne faisait que rendre compte des préjugés de ses personnages. Difficile de la cataloguer, l'écrivaine n'est jamais là où on l'attend. Elle peut être raciste et antiraciste dans le même roman, sexiste et féministe à la fois, imprévisible. Une chose est sûre, Miss Marple et Hercule Poirot sont des stars absolues, tout en étant le contraire de super-héros. Et avec ça, tout les sépare. Le petit moustachu est un détective privé, un professionnel, la vieille célibataire est une amateur. Et puis il y a leur méthode qui diffère. Hercule observe, tire des conséquences. En bon cérébral, il déduit et infère. Jane procède complètement différemment. Quand elle observe un comportement bizarre de la part d'un personnage X, ça lui rappelle immédiatement le comportement similaire de Y. Cette méthode analogique fait apparaître Miss Marple encore plus embrouillée qu'elle n'est. Quand la vieille dame se met à évoquer Y, qui n'a aucun lien apparemment avec l'affaire, ses interlocuteurs la prennent pour une mamie zinzin. Et surtout, à la fin de chaque intrigue, Jane Marple rencontre le même problème. Parce que sa méthode est fondée sur l'analogie, elle devine qui est l'assassin et comment il s'y est pris pour tuer. Elle devine, mais elle ne peut pas le prouver. Alors, pour confondre le meurtrier, la solution est d'y aller au bluff, de faire craquer le criminel, de le pousser à avouer. Sauf que la romancière ne peut pas faire le coup à ses lecteurs à chaque enquête. Agatha Christie le sait. Autre solution, le hasard apporte sur un plateau la preuve que Jane attendait. Mais là encore, ça ne peut pas être systématique. C'est sans doute pour ça qu'Agatha Christie a davantage sollicité Poirot que Marple. 33 romans et plus de 50 nouvelles pour le vieux belge sentencieux, 12 romans et 20 nouvelles pour la vieille fille inoffensive. Quand Agatha parle d'âge, elle est assez cash. Elle n'élude pas le mal de dos, les rhumatismes et le soulagement à renoncer à l'amour propre. Enfin, l'amour propre, il peut quand même être blessé.
France Inter. Un thé avec Agatha Christie. Épisode 5. Marple et Poirot, l'âge de vérité.
Lors de la fête des 10 ans de sa pièce La Souricière, Agatha a 72 ans, de l'embonpoint, des rides, et elle n'est pas dupe de son état.
Je fus introduite dans les lieux, dû couper des rubans, embrasser des actrices, afficher un large sourire, minauder, supporter l'outrage fait à ma vanité de me voir poser joue contre joue avec l'une de ces jeunes et jolies starlettes, en sachant que nous allions paraître ainsi dans le journal du lendemain, elle rayonnante de beauté, parfaite dans son rôle, et moi franchement affreuse. Très bon pour l'amour propre, je suppose.
Parlons rapport au temps, justement. Agatha a inventé un type très particulier d'énigmes qu'elle a mis en place dans 5 romans, dont 4 avec Marple et Poirot. Ces 5 romans étranges sont des cold cases résolus. Non pas des affaires classées restées sans solution, mais au contraire, des enquêtes déjà élucidées, et il y a longtemps. Dans ces 5 romans, Témoin indésirable, Une mémoire d'éléphant, Némésis, 5 petits cochons et la dernière énigme, tout est déjà rentré dans l'ordre, dès le début du livre. L'énigme a été résolue, le coupable démasqué. Pour la justice et pour la famille, tout est fait, tout est dit, tout est fini, à la satisfaction de tous. Tous ? Pas tout à fait. Un personnage surgit qui, lui, n'est pas d'accord et donne un énorme coup de pied dans la fourmilière familiale en appelant Hercule Poirot ou Miss Marple à la rescousse. Ensemble, ils vont bousculer l'ordre établi. Ou, disons plutôt, l'ordre que l'on croyait rétabli. Techniquement, ces énigmes obligent les deux vieux détectives à remonter le temps pour mener leurs investigations dans le passé. Vu la nature des indices qu'ils ont l'habitude de collecter, ça n'est pas un problème.
J'ai entendu parler de vous, Monsieur Poirot, de vos succès, de la façon dont vous les avez obtenus. C'est l'élément psychologique qui vous intéresse, n'est-ce pas? Eh bien, lui ne change pas avec le temps. Ce sont les éléments tangibles qui disparaissent. Un mégot, des traces de pas, des brins d'herbe couchés, eux sont définitivement perdus. Mais rien ne vous empêche de reprendre l'affaire de zéro, de vous entretenir éventuellement avec les gens qui étaient là à l'époque. Ensuite de quoi? Comme vous avez dit tout à l'heure, vous vous installerez dans votre fauteuil pour réfléchir et vous découvrirez ce qui s'est très exactement passé.
Carla le marchand, l'héroïne de Cinq petits cochons, se montre persuasive. Et puis, elle a raison. Une affaire de meurtre est une affaire de meurtre, qu'elle soit vieille, d'un jour ou de 16 ans. Les choses ne se sont pas passées comme on le croyait. L'ordre rétabli est sérieusement remis en question. La réouverture de l'enquête s'impose. Ces cinq cold cases que l'on croyait résolus témoignent de ce que Miss Marple et Hercule Poirot sont des éléments perturbateurs. Ils n'en ont pas l'air comme ça. Tous deux partagent la même devise. La vérité est toujours bonne à dire. Et rien de bon ne peut être fait en dehors de la vérité. Ça fait du bien, non? En ces temps de fake news et d'intox mondialisés. Les limiers d'Agatha Christie ont pris vie à l'écran, sur scène et à la radio grâce à un nombre incalculable de brillants comédiens. Une dizaine d'actrices ont incarné Jane Marple. Et 40 acteurs ont interprété Poirot, parmi lesquels Albert Finney, Peter Ustinov et David Suchet. Suchet fait l'unanimité. Matthew Pritchard, le petit-fils d'Agatha Christie, a dit regretter que sa grand-mère n'ait pas vu l'acteur donner vie à Poirot. Elle l'aurait adoré. David Suchet a tenu le rôle du détective pendant les 24 ans de cette série multiprimée. Il a emballé la terre entière sur 70 épisodes qu'on ne se lasse pas de regarder. Si le comédien britannique interprète un Poirot dont on peut rêver, c'est sans doute en partie parce qu'en plus de son intelligence hors du commun, il a l'air tout simplement gentil, empathique, sensible.
Je me préoccupe de l'innocent, non du coupable, de la victime, non du criminel.
Comme sa créatrice.
Ce qui m'effraie et me stupéfie, c'est l'apparente indifférence que l'humanité en général manifeste précisément à l'égard de l'innocent.
De son côté, Marple est convaincu que la haine peut s'éteindre assez rapidement, qu'elle n'a pas la même puissance que l'amour. Elle est la messagère de sa créatrice qui dépeint sa tragédie humaine avec entrain, avec une énergie folle, une vitalité dont elle-même s'émerveille. Agatha Christie aime la vie.
Toujours quand je me levais, j'éprouvais le sentiment qui doit, je suis sûre, être naturel en chacun de nous, la joie d'être vivant. Je ne dis pas qu'on le ressente consciemment, ce n'est pas le cas. Mais vous êtes là, bien vivant, vous ouvrez les yeux sur une nouvelle journée. C'est un pas de plus, pour ainsi dire, dans votre voyage vers l'inconnu. Ce voyage excitant qu'est votre vie, qui n'est pas forcément excitante en tant que telle, mais parce que c'est votre vie. Tous les jours ne sont pas nécessairement bons. Après le délicieux sentiment initial du « un nouveau jour, c'est merveilleux », vous vous souvenez que vous avez rendez-vous chez le dentiste à 10h30, ce qui est loin d'être agréable. Mais ce premier sentiment du réveil est passé par là et agit comme un stimulant très utile. Beaucoup, bien sûr, dépend de votre tempérament. Aussi, si j'étais une bonne fée au baptême d'un nouveau-né, c'est de cela d'abord que je lui ferais présent. D'un heureux caractère.
Eldest daughters never miss their chances to learn the hardest lessons again and again. Carrying my mother's torment, I think I'm where the bloodline ends. I'll never do the right thing again. Go
C'était Hayley Williams qui chante Kill Me.
France Inter. Un thé avec Agatha Christie.
Bonjour Sophie Fontanelle.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine et critique de mode. Vous avez écrit de nombreux récits et romans dans des genres très différents qui ont rencontré un grand succès. Vous avez eu 1000 vies. Je dois dire d'entrée de jeu que c'est une des choses que je me suis dite en préparant là, cette interview, c'est que vous avez beaucoup de points communs avec Agatha Christie. Et vous allez nous raconter quelle est votre Agatha. C'est désormais une petite question habituelle pour commencer notre thé. Est-ce que vous avez un souvenir d'Agatha Christie que vous souhaiteriez nous faire partager ?
Je crois que c'est quand même quand j'ai vu Meurtre au soleil. Parce que c'est là où deux passions dans ma vie se sont accolées. L'une, celle pour Hercule Poirot, ce personnage, et la mode. C'était Anthony Powell, je me souviens, j'étais allée fouiller à l'époque, qui était le costumier qui avait fait les costumes. Mais tout d'un coup, ces vêtements...
Je me souviens du chapeau.
Le chapeau sur la plage, celle qui va mourir. Enfin bon, ça y est, on spoil. Mais ça, c'est pas vraiment un grand secret, non. C'est plutôt l'assassin. Et c'était tellement chic, ces vêtements. Ça me manque encore, cette façon de s'habiller de cette époque.
Vous aviez quel âge quand vous avez découvert ces romans ?
Oh, je pense que je vais avoir 16-17 ans par là. J'allais à l'Harmattan, vers la rue des Écoles, m'acheter des livres de littérature anglaise, j'étais passionnée par ça. Il y avait eu un supplément littéraire qui disait tous les meilleurs romans anglais à lire, et en allant acheter ces meilleurs romans à lire, c'est-à-dire Evelyn Waugh, enfin plein de gens comme ça, eh bien je suis tombée sur des Agatha Christie collection orange cartonnée. C'est la seule chose dans ma vie que j'ai collectionnée.
Alors justement, j'allais y venir. Vous avez dit, lors de votre passage dans le book club de Marie Richeux en 2020, que parmi tous vos livres, tout votre capharnaüm de livres, vous aviez une toute petite bibliothèque qui était dévolue aux romans d'Agatha Christie et que c'était la seule à être rangée. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Oui, c'est toujours le cas. C'est une bibliothèque fabriquée par mon grand-père, qui était ébéniste. Et elle est petite et j'ai quasiment tous les Agatha Christie.
Dans le masque.
Dans le masque, je pense. Et puis, une vieille collection. Je pense qu'il m'en manque 4, un truc, quelque chose comme ça. Et j'y tiens. Et je vais vous dire pourquoi j'y tiens. Parce que quand j'ai pas le moral, ça arrive à tout le monde. Hein, moi, j'ai plutôt quelqu'un qui a pas mal le moral. Mais bon, à des moments comme tout le monde, je vois plus personne. C'est le week-end, je vais faire des courses. Et je lis 3 Agatha Christie. Voilà, je me mets au lit. Et pendant tout le week-end, je ne bouge plus. Ça me ressource.
Oui, il me semble vous avoir déjà entendu dire ça, donc c'est quelque chose qui a l'air très très important dans votre vie. Et quel fan êtes-vous, du coup ? Est-ce que vous sauriez dire, est-ce que c'est plutôt l'aspect drôlerie d'Agatha ? Je trouve que c'est quelque chose que vous partagez avec elle. Ou est-ce que c'est son côté noir ? Qu'est-ce qui fait de vous une fan ?
Ben, je crois vraiment c'est... Après, vous avez dit que j'avais des points communs, donc je veux pas paraître... Ça va faire un peu bizarre que je dise ça, mais je
mais
le
non,
dis quand
c'est
même.
C'est moi qui l'ai dit.
C'est l'intelligence. C'est qu'en fait, ça me fait totalement triper de voir un tel niveau d'intelligence comme ça me le fait dans Columbo. Hein. C'est-à-dire qu'un cerveau, que quelqu'un soit là en train de faire marcher ses petites cellules grises, hein, comme il dit, c'est... Si on voulait faire un bond stratosphérique, je dirais ça m'excite. C'est vraiment... Je trouve que c'est le... c'est pas tellement de savoir qui est le criminel. D'ailleurs, les gens disaient souvent, ils disent « Ah, mais on devine !» Mais moi, je cherche même pas à deviner, je me laisse complètement balader par l'intelligence d'Hercule Poirot ou de Miss Marple ou d'autres gens, parce qu'il y a eu parfois d'autres gens.
Et alors, justement, vous êtes plutôt Marple ou Poirot, Sophie Fontanelle ?
Eh bien, disons que physiquement, je deviens de plus en plus Marple, mais moi, je suis Poirot.
Il vous manque le châle aujourd'hui, le vieux châle rose.
Voilà, mais bon, j'en ai, hein, ne vous méprenez pas, mais je suis Poirot. En fait, Poirot, c'est pour moi à la fois, et ça correspond à mon adolescence, à ce que je voulais dans mon adolescence. Dans mon adolescence, je voulais être totalement, je voulais être féminine, mais j'étais aussi garçon manqué. Je voulais, je dirais pas aujourd'hui, on dirait dégenré, c'était pas ça. Je voulais être les deux à un niveau d'imagination. Je voulais être les deux. C'est pas dans la vie réelle. Je voulais pouvoir être cet homme super intelligent. Et quand on le décrit et qu'on dit qu'il est pas beau, parce que parfois il est décrit par des gens bas du front, hein, qui disent oui, il est affreux, il est gros, il a une tête d'œuf. Elle le décrivait comme ça. Mais il a un charme fou. Moi, je crois que ce qui le rend si irrésistible, c'est que ce n'est pas un homme qui met en avant ses couilles, comme on dirait, hein. Mais il a vraiment un
courage.
Une sorte de vraiment immense courage. Mais c'est cette espèce de puissance de l'intelligence qui, pour moi, c'est ce qui fait que quand je vois, mettons, Leonard Bernstein diriger un orchestre, je suis face à cette puissance qui est loin d'être juste la puissance virile, hein. C'est la puissance du talent, parce qu'en fait, on peut parler carrément de talent chez Poirot. Mmh. C'est le talent et l'intelligence. Et ça, Ça me souffle, quoi. Ça.
C'est la vie aussi, non? Parce que vous parliez de Bernstein, c'est vrai que quand il a de la puissance, il est très très vivant, Poirot.
Mais c'est un homme qui va s'animer comme un limier, hein. Il va s'animer quand il va comprendre qu'il y a quelque chose à trouver, voilà. Mmh. Et moi j'écris des romans, j'en écris une vingtaine, et après les gens peuvent en penser, enfin je sais pas, ça dépend, il y a des gens qui lisent, des gens qui lisent pas, des gens qui aiment, des gens qui aiment pas, mais moi ce que je sais, c'est que je suis un limier quand j'écris ça, et j'adore. Que je suis là à renifler et excitée par l'écriture. Et je pense qu'Agatha Christie était excitée par l'écriture aussi.
Vous êtes bien sur France Inter, nous partageons un thé avec Agatha Christie et avec Sophie Fontanelle. Est-ce que vous avez eu peur en lisant Agatha Christie, Sophie Fontanelle ?
Non, j'ai jamais eu peur. Enfin, moi, je pense que ça n'est pas fait pour faire peur. C'est fait pour vous emporter, quand je reviens, à un niveau intellectuel extraordinaire. Et quand on dit parfois, les femmes, elles n'ont pas été reconnues comme écrivains, écrivaines, enfin, quand on dit tout ça, enfin, quand même, la plus grande vendeuse de livres au monde,
c'est
elle.
C'est une femme.
Voilà. Donc, et la plus grande raconteuse d'histoire, c'est Scheherazade. Donc, en fait, on est avec des puissances folles de intellectuelles. Elle a mis tout ça, parce qu'évidemment, il y a Miss Marple, mais je dois dire que quand je les relis, là, que je les prends de ma bibliothèque, je suis toujours un peu déçue quand je tombe sur un Miss Marple.
D'accord.
J'aime bien que Hercule Poirot arrive parce que je pense que j'en suis un peu amoureuse.
Et pour vous, une adaptation que vous adorez en série ou au cinéma
Bon, alors évidemment, il y a les grandes adaptations avec Peter Ustinov, j'adore. Enfin, il est bien, il est cabot comme Hercule Poirot, mais ce que je préfère, c'est David Suchet. Il est. Alors ça, j'ai regardé ça je ne sais combien de fois. J'aime aussi beaucoup les petits meurtres entre amis, hein, c'est ça
D'Agatha Christie, hein. Oui, on a
ça,
reçu
j'aime beaucoup.
Sophie
alors Reville. Ça, c'est pour une autre raison, c'est que. Parce qu'eux, ils ont chargé ça d'érotisme. C'est génial.
De tension érotique.
Oui, il y a une tension érotique tout le temps. Mais il y a l'esprit, l'humour, la drôlerie qui est quand même partout dans les romans d'Agatha Christie.
Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'élégance de Poirot. Vous en pensez quoi, vous qui êtes une spécialiste?
Il est plus qu'élégant, il est maniaque. Ce qui est drôle, c'est qu'il me semble qu'Agatha Christie a voulu le détruire. Il me semble qu'en le construisant même, et même en lui donnant ce nom, enfin, il me semble, des gens l'ont écrit bien plus érudiquement là-dessus, mais en voulant créer ce personnage, et en disant Poirot, parce que Poirot c'est un poireau, c'est un légume, c'est ridicule, elle a fait exprès de mettre
bien
ce nom
sûr,
français.
Il s'appelle Hercule alors qu'il est
voilà,
petit.
Voilà, Hercule, voilà. En voulant créer tout ça, la moustache, elle a fabriqué un être un peu ridicule. Pourquoi elle voulait ça? J'en sais rien, mais moi je pense que c'était pour camoufler qu'elle était l'intelligence d'Hercule Poirot. Elle voulait se camoufler et elle a masqué tout le truc. Ben, de toute manière, c'est bien, elle se retrouve au masque. Hein. Elle a complètement tout masqué, comme elle était facétieuse. Hein.
Très.
Et pour moi, pourquoi c'est intéressant comme il est? Parce que c'est un homme qui ne se décoiffe pas. Donc, il ne peut pas faire l'amour.
Ah, c'est
non.
Bien.
Il est entièrement... Il est posé, il ne faut pas le déranger. Il ne faut rien déranger à sa mise. Et c'est un être asexué, complètement. Mmh. Qui pourtant comprend tout des méandres du désir.
Mmh. Oui, parce qu'elle joue beaucoup sur la rivalité, dans les ressorts de ses intrigues, sur l'envie, la rivalité, la jalousie. Ça, c'est quelque chose qu'il comprend très bien.
Mais vous savez, il n'y a rien de tel que les gens abstinents pour comprendre le désir. Parce qu'il faut faire un peu travailler son imagination pour comprendre le désir. Si vous êtes que dans l'action, finalement, ben, vous manquez d'imagination.
Oui, parce que c'est vrai que le désir crée du manque. Est-ce que vous aviez un livre, un roman préféré?
Oui, j'ai relu beaucoup ce qui se passe en Mésopotamie, meurtre en Mésopotamie. J'aime beaucoup ceux qui ont un lien avec l'archéologie, tout simplement parce que ça me faisait voyager, ça me faisait rêver. En film, meurtre sur le Nil, comment il s'appelle?
Mort sur le Nil.
Mort sur le Nil, j'ai encore dans l'idée des choses à faire dans ma vie de partir sur un beau bateau habillé comme ça et j'ai encore cette idée. Je, J'avais rencontré une fois Jane Birkin et je lui avais parlé immédiatement des Agatha Christie pour savoir si elle avait gardé les vêtements, comment c'était.
Elle joue dans Les Vacances, elle, hein, c'est ça ?
Elle joue dans Les Vacances, mais je pense qu'elle joue aussi dans Mort sur le Nil.
Vous avez raison. Elle joue dans Mort sur le Nil. Elle joue une employée, une domestique.
Voilà, une domestique. En fait, ça, c'était des paysans, mais c'était toute la partie un petit peu très commerçante, si je puis dire, de Agatha Christie. Elle savait où situer ses intrigues. Hein. J'aime bien quand c'est chez les riches. Là, il y a vraiment. Elle décrit beaucoup d'oisifs qui font des fêtes. Il y a beaucoup d'histoires d'héritage. Ou si vous voulez, pourquoi on tue les gens hein.
Enfin, oui, c'est vrai,
à notre époque, on dirait des choses différentes, mais à cette époque-là...
Alors justement, à notre époque, qu'est-ce qui fait que, selon vous, on la lit encore aujourd'hui ? Parce qu'elle rencontre un succès, j'ai envie de dire, de plus en plus fou.
Ah, c'est une des rares fois où je me suis mise en colère. La fille d'une amie qui me disait « Ah non, moi je ne lis pas Agatha Christie parce qu'elle a dit les dix petits nègres, donc elle était raciste. » Alors il fallait tout expliquer, toute l'histoire. Et puis bon, et puis de toute manière, il paraît qu'elle était raciste, elle était raciste. Donc ça me fait bondir parce que je crois qu'elle était peut-être raciste à des moments. C'est pas ce que je veux dire. Je suis pas là en train de défendre cette femme, mais elle se prive de l'incroyable apport de cette femme. Et cette femme, elle appartenait à une époque et elle venait avec des préjugés de son époque. Hein. Moi, ma mère est née en 24. Elle avait des préjugés. Voilà, j'ai pas les mêmes. Alors, est-ce que je vais décider que je vais plus sur la tombe de ma mère parce qu'elle avait des préjugés? Ça marche pas, en fait.
Je vous suis complètement. Et d'ailleurs, elle est très difficile à cataloguer. Hein, quand dans un même roman, elle peut avoir des propos qui nous semblent très choquants aujourd'hui et en même temps être très très progressiste à d'autres moments. Donc, elle est difficile à classer. Mais le côté universel et intemporel, c'est l'intelligence pour vous. C'est quoi ?
Moi, je pense que ça tient encore, hein, si vous vous plongez dedans.
Mais ça vous prêche une convaincue ?
Ouais. Ça tient parce que vous vous plongez. Pour moi, ça représentait, parce que j'adore les vêtements et j'en ai fait mon métier aussi, pour moi, ça représentait une plongée dans un style. Et j'adore ce style, que ce soit sur Cecil Beaton, sur tous les gens des années 30, etc. J'adore ça. Maintenant, c'est aujourd'hui, si on le lit, donc on a cette plongée, ce qui doit être vertigineuse, hein, dans un autre monde. Je pense que pour un jeune, tout d'un coup, ces gens qui se marient mais qui sont pas heureux, ça doit pas leur... Il y a peut-être des gens à qui ça parle pas. Hein, je peux pas me mettre à la place de...
Mais vous, ça vous parle encore ?
Moi, ça me parle encore, et surtout, je suis assez sévère avec des gens qui diraient que c'est démodé. Je suis sévère parce que Chopin, c'est démodé, en fait, dans ces cas-là. Parce que Proust, dans ce cas-là, c'est démodé. Parce que on va pas lire Proust parce que Proust parle de comtesse. Je connais des gens qui me disent ça. Je ne veux pas le lire car il parle que du Dao de société. D'abord, déjà, c'est pas comprendre toute l'histoire. Mais je crois que ça, c'est un énorme piège de notre époque. Hein.
Je suis assez d'accord. Et alors, pour en revenir. Au style, je ne sais pas si vous avez vu les adaptations de Sarah Phelps, qui alors c'est très noir, hein, c'est une façon très noire de relire Christie, de l'adapter, mais en revanche, elle a réussi à faire un style entre les années 30 et les années 50, à la fois intemporel, très chic, je ne sais pas si vous avez vu, et aussi, autre question, est-ce que Miss Marple est stylée ? Parce qu'elle ne fait pas très attention.
Miss Marple est chic. Et quand on est chic, on n'a pas besoin d'être stylé. Elle est chic, elle est chic dans sa manière de parler. Mmh. Et même si dans les livres, on ne l'entend pas, on s'est très bien vu de la faire parler avec une petite voix comme ça, qui a l'air de rien. Mais voilà, Miss Marple est chic parce qu'aussi, et ça c'est tellement... Les gens qui affichent de la puissance, c'est pas très chic. Les gens qui sont un peu fragiles, ça n'a rien à voir avec leur poids. Hein. Ça se trouve, elle a un bon petit... Bon popotin, c'est pas la question. Mais les gens qui n'ont pas besoin de faire usage de la force, c'est chic. Et c'est moins chic que Poutine, quoi. Donc, elle est pour moi déjà chic. Ensuite, pour parler des adaptations qu'il y a eu sur les vêtements, c'est-à-dire que ça traverse une... la mode a fait ça. Elle a croisé la mode des années 20, des années 30, des années 40, des années 50, 60, là, voilà. Tout ça, vous avez, et les années 70 qui reprennent les années 20. les petits chapeaux oui, cloches, tout ça, vrai. Qui reprennent les années 20. Donc en fait, Agatha Christie, ça couvre tout ça, ce qui fait que quand on l'adapte, on peut beaucoup s'amuser. Parce que Mia Farrow, eh ben, elle a un côté Agatha Christie.
Ouais.
Parce que Diane Keaton, eh ben, elle a un côté Agatha Christie. C'est ça qui a amené Woody Allen à faire Meurtre mystérieux à Manhattan. Mm. Il y avait ce petit côté Agatha Christie, même si ce n'était pas ça. Et ça, ça vient du vêtement, du pouvoir extraordinaire de ce style qui, après, est parti avec les années 80.
Mm. Merci beaucoup Sophie Fontanelle. J'annonce, parce que vous avez la gentillesse de nous en faire la primeur, que vous publiez en avril prochain un roman intitulé Scheherazade et la 602e nuit aux éditions Segers. Pour préparer cette série, je me suis rapprochée de l'archiviste de la famille Christie, Joe Keough, qui rencontre régulièrement Matthew Pritchard, le petit-fils d'Agatha. Je voulais vérifier une anecdote sur la souricière dont j'avais trouvé des versions différentes. J'écris donc à Joe Keough, je lui explique le concept de l'émission et lui en donne le titre, Un thé avec Agatha Christie. Joe me répond qu'il va demander à Matthew, puis il ajoute qu'il me donne un petit scoop que je vous livre à mon tour. Agatha Christie n'aimait pas le thé. La prochaine fois alors, chère Agatha, on vous offrira du café ou un bon chocolat. Thanks a lot, dear Joe. C'est la fin de notre cinquième et dernier épisode d'Un thé avec Agatha Christie. Avec les voix de Perrine Marillet, Catherine Pietri et Frédéric Constant, merci à tous les trois. Et merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Charles de Cilia à la réalisation, à la technique Marie Potier et Sybille Clamins, programmation musicale Djoubaka, pour la documentation Emmanuel Lucioni à Lina, attaché de production Marius Series. Merci à tous. Tous les épisodes d'Un thé avec Agatha Christie sont à retrouver en podcast sur le site et sur l'appli Radio France.